Bac FM, il est 7h30, bon réveil à l'écoute du 106.1, votre rendez-vous mensuel dans l'échange reçoit aujourd'hui Madame Rémillet, directrice de Nièvre Habitat. Bonjour.
Bonjour.
Comment Nièvre Habitat intervient dans la rénovation du quartier du Banlay?
Alors sur le quartier du Banlay, c'est un très vaste projet. Nièvre Habitat, comme son nom l'indique, intervient sur la question de l'habitat, qui intègre à la fois la question des logements, des immeubles qui y sont présents, mais aussi du cadre de vie, pour effectivement aller vers une modernisation, une amélioration du cadre de vie et une amélioration de l'offre de logement sur ce quartier.
Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Il y a aussi le lien avec les habitants, la communication avec les habitants. Il y a la transition écologique, énergétique. On va revenir aussi sur tous ces aspects-là. Nièvre Habitat, c'est l'acteur principal, l'acteur majeur du volet Habitat. Il y a plusieurs objectifs. Il y a la réhabilitation de 415 logements. Il y a la démolition de 419 logements. Il y a la construction d'une centaine de logements et il y a aussi une nouvelle offre locative. On va revenir sur ces différents points, sur la situation actuelle, à quelle phase on en est actuellement. Mais avant, quelle est la différence entre réhabilitation et démolition? Comment on choisit qu'un tel bâtiment sera démoli et un autre sera plutôt réhabilité?
Alors, tout ça a fait l'objet de nombreuses études par rapport à l'existant, d'études à la fois techniques, d'études d'occupation ces immeubles.
C'est à ce moment-là où d'autres organismes aussi rentrent en compte dans ce projet, où Nièvre Habitat travaille avec des collaborateurs, avec d'autres entreprises.
Oui, on a travaillé en partenariat avec les services de l'État, avec les services de l'agglomération, de la ville de Nevers. On fait appel à des bureaux d'études, pour les volets techniques bien sûr. L'idée a été de poser déjà un diagnostic de l'existant, et puis très concrètement, immeuble par immeuble, de regarder quelles étaient leurs destinées finalement à chacun de ces immeubles. On décide d'une démolition quand l'immeuble a perdu de son attractivité, quand techniquement il n'est pas réhabilitable, dans lequel on va pas, par exemple, pouvoir installer un ascenseur ou ne pas pouvoir le transformer en profondeur, puisqu'aujourd'hui, l'idée est d'adapter l'offre de logement à la réalité de la demande et à la réalité de l'existant. On a parfois des grands logements quand on nous demande des logements de petite taille. On peut avoir des logements avec beaucoup de chambres, alors qu'on va nous demander une à deux chambres. On a par exemple des logements qui ont été construits massivement dans les années 60-70, époque à laquelle on prévoyait plutôt de petites cuisines fermées, de petites salles de bain. Aujourd'hui,
on ouvre plus les pièces.
On ouvre les pièces et puis on ne vit pas comme on vivait dans les années 60 et 70. Donc les besoins ont changé et l'idée de pouvoir adapter l'offre de logement pour rester attractif et que ces quartiers puissent vivre et accueillir une population qui s'y trouve bien.
Il y a ce sujet de l'amiante aussi, c'est une des principales causes de pourquoi on démolit aussi un bâtiment.
Tout à fait. L'amiante est une composante importante. Alors, on peut désamianter totalement dans le cas d'une réhabilitation.
D'accord, c'est possible, oui.
Tout dépend où elle se trouve, mais c'est effectivement un des critères qui nous conduit parfois à aller jusqu'à la démolition. Il y a beaucoup de critères, hein. C'est à la fois le fonctionnement même de l'immeuble qui nous conduit parfois à la démolition, c'est parfois sa localisation dans le quartier, parce qu'on travaille effectivement avec l'agglomération et la ville sur le réaménagement global du quartier, à recréer une centralité à ce quartier, et parfois un immeuble peut être amené à être démoli pour libérer une place pour effectivement une future place de quartier, pour de futurs commerces ou pour d'autres usages.
Et puis, il y a un autre point aussi, à côté de la réhabilitation et de la démolition, c'est cette nouvelle offre locative. Qu'est-ce qui sera mis à disposition des habitants qu'ils n'avaient pas avant via cette nouvelle offre? Vous parlez d'un nouveau style de vie aussi qu'on n'avait pas avant, ça passe par l'aménagement des appartements. Est-ce qu'il y a autre chose aussi? Est-ce que ça passe par un ensemble de plusieurs choses?
Alors, il y a plusieurs fils conducteurs sur cette transformation de quartier. Déjà, sa dédensification. Donc d'où le volume de démolition pour dédensifier le quartier, l'ouvrir sur ses espaces extérieurs, le revégétaliser pour laisser rentrer la nature dans ce quartier. Sur la partie habitat proprement dite, on est sur un objectif de diversification de l'habitat, puisqu'aujourd'hui l'habitat locatif social proposé est plutôt massivement en collectif. L'idée, c'est d'arriver à diversifier l'habitat, proposer du locatif en pavillon, du locatif en petite résidence sécurisée ou encore des logements qui vont être dits superposés, un logement au rez-de-chaussée, un logement à l'étage par exemple. Donc on va être sur des formats d'habitat de plus petite taille. plus diffus et surtout offrir la possibilité d'habiter un logement individuel au cœur d'un quartier.
Pour ça, il y a aussi une étude de besoin des habitants.
Totalement, une étude de besoin. On voit que de plus en plus, l'orientation et l'aspiration des habitants est d'avoir un balcon plus généreux, une terrasse ou un jardin privatif. Donc on va vers la réponse à ce type de besoin aussi.
Vous parlez aussi de faire rentrer la nature dans le quartier. Il y a cet aspect de casser l'idée de bloc de béton, de ne pas vouloir que ce quartier soit un bloc de béton en fait.
Tout à fait. Voilà. Il est très minéral aujourd'hui. L'idée c'est de faire rentrer la nature, de travailler au changement climatique aussi, hein, puisqu'il nous faudra des espaces beaucoup plus végétalisés pour faire diminuer la température au cœur du quartier. Et c'est vrai que autant dans les années 60-70, on construisait vite, on utilisait beaucoup le recours au béton. Aujourd'hui, il faut être plus raisonnable dans l'artificialisation et effectivement laisser la place à toutes les composantes de la vie quotidienne.
J'évoquais juste avant l'étude de besoins des habitants. S'adapter aux habitants, à leurs besoins, leurs obligations, communiquer avec eux, c'est primordial dans un projet comme cela. Et est-ce que ça a déjà été le cas? Est-ce que vous avez déjà pu parler avec certains habitants, avec peut-être des représentants de quartier?
Oui, tout à fait. C'est le travail engagé. La très grosse difficulté dans un projet comme celui-ci, c'est que c'est un projet pluriannuel et on a l'impression que rien ne bouge. Ça demande beaucoup d'études, ça demande beaucoup de réflexion parce que les choix, on les fait pour les 40 à 50 ans à venir. Donc ça nécessite de penser les choses, de bien réfléchir et de rester malgré tout avec des solutions qui pourraient évoluer à l'avenir. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, on travaille sur du long terme alors que la population aimerait voir des choses à court terme.
Et dans un projet comme celui-là, communiquer, ça rime aussi avec rassurer, avec expliquer peut-être?
Oui, il y a aussi la gestion de l'attente forcément, parce qu'on génère des attentes, on génère des besoins, on génère des envies. On peut pas y répondre dans l'immédiat parce qu'effectivement, démolir, reconstruire, transformer, ça prend beaucoup de temps.
Il y a aussi autre chose à laquelle il faut s'adapter, c'est la transition énergétique et écologique, surtout en ce moment et certainement encore plus dans les années à venir. Ça passe par la création d'un quartier durable. À quoi doit répondre un quartier durable et un projet donc comme celui-ci pour amener un quartier durable?
Alors, il y a beaucoup de dimensions dans un quartier durable. C'est un quartier vivable. C'est un quartier où on se sent bien, c'est un quartier respirable, c'est un quartier où on laisse la place, comme je le disais tout à l'heure, à des espaces verts, à des espaces de partage aussi, à des espaces de lieux de vie, à des pratiques, qu'elles soient pédestres, qu'elles soient sportives ou autres. C'est aussi sur la version, sur le volet habitat, un quartier qui transpose l'habitat comme peut-être moins consommateur d'énergie fossile, ouais. Moins consommateur de produits qui vont endommager la planète. Donc c'est toute une réflexion sur les matériaux utilisés aussi. On va de plus en plus, par exemple, sur des matériaux biosourcés.
C'est quoi un matériau biosourcé?
Et sa source même vient de la terre. Donc, on va pouvoir avoir des isolations à base de lin, de chanvre. On va pouvoir avoir des isolations à base de laine de bois, par exemple. Là où auparavant, on allait plutôt sur des matériaux... certes très industriel, mais sans doute plus impactant pour la planète. Et puis, c'est aussi aménager un quartier qui puisse répondre aux aspirations de vie, de rencontres, des lieux. Alors, avec un pôle d'enseignement, des lieux pour la jeunesse, parce que c'est aussi important qu'ils puissent s'accaparer le quartier et y passer la journée mais aussi les habitants du quartier pouvoir avoir une vie sereine. Donc le volet sécuritaire est très important. Parler d'un quartier durable, c'est aussi aborder les questions de sécurité. Et je crois que sur le Banlay, elles sont nombreuses à traiter et le chemin est encore long à parcourir pour qu'effectivement ce soit des quartiers où on s'y sente bien et on puisse le fréquenter de jour comme de nuit.
Nièvre Habitat participe dans l'aménagement donc de l'habitat, mais amène un volet très sécurité à son habitat, mais aussi à des aménagements. Donc.
Tout à fait, en partenariat plein et entier avec l'agglomération et la ville.
Dans un projet comme celui-là, la démolition et la reconstruction, il y a évidemment l'aspect de relogement qui rentre en compte. Comment Nièvre Habitat a travaillé et travaille encore avec les habitants sur ce sujet-là?
Ça, c'est un des points centraux, c'est qu'il ne suffit pas de décider qu'on va démolir, reconstruire. On a de l'humain, et d'abord avant tout de l'humain. Donc c'est un très gros travail pris en charge par les équipes de Nièvre Habitat, avec des personnes dédiées qui vont accompagner chaque locataire individuellement sur ses besoins, sur sa situation.
C'est leur fonction qui est à même le relogement, qui n'engage que le relogement des personnes.
Tout à fait.
Qui sont dédiées à ça.
Parce qu'il faut effectivement prendre le temps d'écouter chacun. Où est-ce qu'il a envie d'habiter? Comment on peut l'accompagner sur ce relogement? Et l'accompagnement est total, depuis l'écoute des besoins, la recherche du logement sur la localisation désirée, l'accompagnement au relogement, la prise en charge des frais, l'installation dans un nouveau logement, c'est vraiment un accompagnement global et c'est la priorité des priorités. Donc c'est ce à quoi Nièvre Habitat s'est engagé depuis déjà plusieurs années. Le relogement a très bien avancé sur le Banlay, puisqu'aujourd'hui, sur les 185 familles qui étaient à reloger, 165 familles sont relogées. 11 familles ont organisé leur départ assez tôt, parce qu'ils seraient de toute façon partis.
Et de toute façon, Nièvre Habitat prenait en charge toute la logistique dans le déménagement finalement de ces familles-là.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. La recherche du logement et l'accompagnement dans le déménagement, parce que c'est une charge, parce que c'est quelque chose que l'on impose à partir du moment où on a fléché la destinée d'un immeuble en démolition. Pour les familles, c'est assez cruel parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on leur impose ce choix-là qu'elles n'ont pas souhaité. Beaucoup souhaitaient rester dans le quartier. Donc on a aussi tout mis en œuvre pour essayer de les accompagner au mieux et de retrouver un logement au sein du quartier.
Est-ce que c'est facile à ces familles-là ou à ces personnes qui vivent seules aussi, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui vivent seules, qui espèrent regagner leur relogement le plus rapidement possible, leur nouveau logement, est-ce que c'est facile de leur donner une date butoir précise de quand est-ce qu'ils pourront revenir? Parce que il y a des gens qui sont attachés à leur lieu de vie, où ils ont vécu des fois 30, 40, 50 ans même pour certains. Le relogement ne doit pas être très simple, c'est un nouveau style de vie qu'ils doivent avoir, ils ont hâte de retrouver leur nouveau logement. Est-ce que c'est facile de leur donner une date butoir, une date précise?
Non, c'est très compliqué parce qu'en fait, sur des projets de réhabilitation ou de reconstruction, on se heurte à beaucoup de contraintes, beaucoup d'obstacles, qu'ils soient techniques, réglementaires, financiers. Donc on ne projette pas forcément sur le retour. On met tout en œuvre pour que le relogement soit bien vécu. D'où le temps que cela prend et l'accompagnement nécessaire. Mais la priorité, c'est dès le premier relogement se passe le mieux possible, parce qu'on peut être sur des délais assez longs. Pour ceux qui voudront à nouveau redéménager à l'avenir sur les nouveaux logements que nous allons construire, par exemple, ce sera une nouvelle démarche à engager. Mais on n'inscrit pas un aller-retour, si vous voulez. On travaille vraiment pour que ce relogement permette aux gens de s'épanouir et qu'effectivement, il n'y ait pas de nouveaux relogements imposés à l'avenir et que ce soit, s'il doit y avoir un nouveau déménagement, que ce soit libre et choisi.
Et qu'ils répondent aux besoins qu'ils avaient déjà à l'heure actuelle au Banlay et qu'ils puissent avoir dans leur relogement. Quand on parle de date butoir, on parle évidemment de ce qui se passe en ce moment et donc à quelle phase on en est à l'heure actuelle dans ce projet, dans les travaux engagés.
Alors très concrètement sur le quartier, pour ce qui concerne Nièvre Habitat, nous avons démoli 3 premiers immeubles sur le quartier. En 2023, nous en démolirons 2 autres. Ils sont situés rue Émile Combes. Ils sont vides de tout occupant et donc ils disparaîtront sur l'année 2023.
C'est les bâtiments 1 et 2 ?
Oui. Alors une démolition, là aussi, ça paraît pas, mais c'est très long. Il y a toute la partie études préalables. On a plusieurs phases, avec des phases de pré-curage, puis de curage, de désamiantage, avant vraiment que la démolition se voit visuellement.
Oui, exactement. Oui.
Donc il y a toutes des phases qui se passent à l'intérieur des bâtiments.
Une démolition
qu'on ne voit
interne
pas forcément.
Avant, oui, bien sûr.
Tout à fait. Au moment où la grignoteuse, ce qui se remarque le plus, on ne fait pas de démolition par explosion ou par effondrement, on fait de la grignoteuse. Au moment où la grignoteuse vient mâcher la façade, c'est que toutes les étapes préalables ont été réalisées. C'est la dernière étape, celle où on vient déconstruire Une chose importante, on parlait d'un quartier durable. Dès la déconstruction et dès le précurage, on trie. On va utiliser des étapes et des procédures très précises pour ne pas mélanger tous les matériaux, mais plutôt pour les trier et pour les réemploi. On favorise énormément le réemploi des matériaux issus d'un immeuble déconstruit. Le bois, le fer, le plastique, tous les matériaux sont triés par grandes composantes et l'ensemble va être orienté sur du réemploi ou du recyclage ou de la valorisation matière.
Qui peuvent servir après même pour des travaux comme celui du quartier du Banlay ou d'autres travaux à l'avenir, mais qui resservent de nouveaux matériaux.
C'est ça.
Donc les bâtiments 1 et 2 rue Émile Combes, c'était l'objectif. C'était prévu que la démolition et le désamiantage commencent courant décembre. Que c'est le cas.
Oui.
Ça se continuera durant 2023. Les travaux, ils sont proches aussi d'une cité scolaire, donc de passage aussi.
Oui.
Comment vous travaillez avec l'environnement et donc avec le passage de tous ces jeunes qui sortent de la cité scolaire, avec les bus scolaires également?
Alors, bien évidemment, on informe des dates de travaux. Tous nos chantiers sont barriérés. Il y a un affichage. Et surtout, les barrières autour des chantiers permettent de se prémunir contre tout risque. Et s'il le faut, on coupe la circulation. Quand on a démoli le bâtiment 15 à côté de l'école Blaise Pascal, il nous est arrivé de couper la circulation. Là aussi, là encore, ce sont encore des contraintes pour les habitants du quartier et pour ceux qui le fréquentent, mais c'est indispensable en termes de sécurité. Et sur ces premières démolitions, nous avions d'ailleurs calé la démolition grignotage physique pendant les vacances scolaires d'été, parce qu'on était trop proche d'une école, pour éviter le moindre risque.
Qu'est-ce que vous voudriez ajouter pour conclure et pour les auditeurs qui nous écoutent et plus particulièrement pour les habitants du quartier du Banlay sur ces travaux de démolition, de réhabilitation, tous ces termes qu'on a évoqués, tous ces projets à venir et même passés d'ailleurs?
J'aimerais leur dire qu'on a tous conscience que les choses sont très longues, puisqu'on a commencé à planifier ce projet en 2015.
Est-ce que c'est ça aussi qui est compliqué, c'est de travailler avec l'impatience des gens aussi?
En fait, c'est de gérer l'attente. Parce qu'il est difficile d'expliquer tout ce que l'on fait qui n'est pas visible et qui participe effectivement à l'évolution de ce quartier. Les calages financiers, par exemple, sont des temps très longs. Donc voilà, moi j'aurais envie de leur faire passer le message de la patience. On va dérouler ce projet, effectivement. Il est sur la longueur, on est vraiment sur des projets de longue date. Je pense qu'il est très riche et essentiel pour l'avenir du quartier. Sinon, on ne s'y serait pas tous investis, que ce soit l'agglomération, la ville, le département, la région et des acteurs comme Nièvre Habitat, mais aussi d'autres bailleurs. Je pense à Bélis, Mille et une Vie, l'ANRU nous soutient. On est collectivement à la manœuvre, mais c'est vrai que concrètement sur le terrain, ça paraît toujours immensément long.
Dans l'idéal pour Nièvre Habitat, la date butoir de cette fin de projet, ce petit moment où on pourrait imaginer le maire de Nevers qui coupe le fil rouge.
C'est assez difficile à dire parce qu'en fait, ce gros projet Banlay est composé d'une multitude de projets de plus petite taille. Quand déjà nous aurons fait les premières reconstructions, elles vont se situer sur la rue Flaubert vers la rue Balzac. Je pense que quand on aura reconstruit les premiers logements, on aura franchi déjà un joli premier cap.
Un joli premier cap pour les habitants du Banlay qui pourront le voir.
Ce sera quelque
chose de visuel cette fois-ci.
C'est ça.
Merci Madame Millet d'avoir répondu à mes questions. Merci.
Au revoir.
Voilà, Bac FM, tout de suite, c'est le retour du son pop-rock. Pas de rendez-vous aujourd'hui pour cause de vacances. Je vous donne rendez-vous mardi à 13h.